Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglette. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette. Le consistoire israélite de Bayonne et la bienfaisance au XIXe siècle, voici l'intervention d'Anne Oukemanou, docteur en histoire de l'université de Bordeaux-Montaigne. Le consistoire israélite de Bayonne et la bienfaisance au XIXe siècle.
Je suis ravie que Mme Ponté ait donné un panorama général sur la société et la pauvreté et à Bayonne au XIXe siècle, parce que ça me permettra de faire la synthèse sur les solutions que préconise le consistoire israélite. La politique des dirigeants communautaires s'exerce dans trois domaines. C'est pour essayer, c'est-à-dire l'éducatif, qu'ils appellent le Talmud Torah, le social, la rébéra, ou la bienfaisance, et le cultuel, ou le temple. Sachant que les trois domaines vont de pair. La bienfaisance, donc la politique sociale, en somme, qui est menée par les dirigeants de la communauté, s'inscrit dans la continuité de la tradition juive de charité et d'assistance. Et en fin de compte, n'a aucune difficulté à faire sienne l'idéologie paternaliste et de contrôle social des classes populaires qu'est la philanthropie. Cette politique qui est incarnée durant toute notre période, pendant tout le XIXe siècle, par la rébéra. La traduction, c'est la société. C'est pour ça qu'on appelle la société de bienfaisance. La société de bienfaisance est même renforcée au cours du XIXe siècle par des organisations satellites comme la Maison d'Asile et la Société protectrice de la jeunesse israélite et des arts et métiers. Cette politique sociale menée par les dirigeants bayonnais est en parfaite adéquation avec la volonté manifestée par le consistoire central et qui s'exprime à travers la régénération. Ce concept, qui comporte à la fois un volet social et éducatif, la régénération, pour mettre un terme, d'une certaine façon, aux idées reçues, le juif est voleur, lubrique et malhonnête. Donc cette régénération passe d'abord par l'instruction et la scolarisation des enfants de la fraction la plus démunie des communautés ou des indigents, afin de les faire échapper à la misère ou à une situation sociale précaire comme celle de colporteurs, marchands ambulants, marchandes de bas, voire mendiants. Le principe, c'est donc les éduquer en leur donnant un métier stable, le plus souvent un métier de l'artisanat. Et en fin de compte, ce concept de régénération a pour but de les insérer socialement, de les conduire à se mettre en conformité avec l'image que souhaitent donner pour l'extérieur les dirigeants communautaires, celle d'un juif pieux, honnête et travailleurs. Mais cette politique de charité est aussi une arme visant à faire pression sur les individus afin qu'ils se conforment à certaines règles de comportement selon un ordre établi. La politique sociale du consistoire israélite de Bayonne se lit également comme le passage de l'autonomie, c'est-à-dire du modèle de la nation juive, espagnole et portugaise, vers une intégration plus complète, liée à un nouveau statut civil, social, économique, issu de l'émancipation et de la mise en place du système consistorial. Mais, sans abandonner ses différences et ses particularités, sans cesser de défendre l'identité juive. Dans cette politique sociale, on peut distinguer, et c'est vrai sur la politique globale du consistoire pour le 19e siècle, on peut distinguer deux grandes phases. Une première dynamique, du début du 19e siècle jusqu'à la fin du Second Empire, qui multiplie les créations. 1826, création de l'école israélite des garçons, qui reprend l'école qui existait déjà au XVIIe et au XVIIIe siècle. 1837, érection de la synagogue monumentale, le temple. 1845, création de l'école des filles. C'est une création très tardive à Bayonne. Celle de Paris s'est ouverte en 1822. 1861, création de la maison d'asile. 1864, création de la société protectrice de la jeunesse israélite et des arts et métiers. Et 1868, achat d'un immeuble consistorial pour loger les employés, les instituteurs et institutrices et les ministres officiants. Cette période correspond en fin de compte au souci d'affirmer la présence juive dans la cité, de l'extérioriser dans un contexte de reconnaissance publique sur le plan national. Un budget du culte a été accordé à partir de 1831. La seconde phase, jusqu'en 1905, date de la création de l'association cultuelle israélite, celle qu'on connaît encore aujourd'hui, est une période de crispation, marquée par un repli communautaire. En fin de compte, mobiliser les consciences, lutter contre l'indifférence religieuse deviennent les seuls objets de préoccupation de la politique consistoriale. Cette période est marquée pour la communauté par un net déclin de la population juive, par des difficultés financières chroniques, par une situation politique défavorable pour la communauté, montée de l'antisémitisme politique, exacerbée lors de l'affaire Dreyfus, laïcisation des écoles, séparation des églises et de l'État. Les conséquences sont immédiates, les écoles ferment, les cotisations fondent et l'appel aux donateurs étrangers à la communauté devient une obligation. Ce panorama nous a paru nécessaire pour mieux comprendre l'évolution de la politique sociale du consistoire. Et c'est ce que je me propose de développer à présent. Pour les Juifs, l'aide aux coreligionnaires déshérités est considérée comme un devoir religieux. Pour les plus riches, elle est une obligation morale, ce qu'on appelle une mitzvah. L'organisation de la bienfaisance est de ce fait une des tâches prioritaires de toutes les communautés juives. À Bayonne, Saint-Esprit, il s'agit donc de la Ribera, noble débris que nos pères ont apporté de l'Espagne, comme le rappelle le grand rabbin Samuel Marx. De l'établissement des Juifs à Saint-Esprit au début du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la Ribera occupe une place de premier plan et désigne diverses institutions sur lesquelles je ne vais pas m'étendre tout de suite. Organisation caritative au départ, elle voit ses pouvoirs confondus avec ceux des syndics, c'est-à-dire les dirigeants du 18e, de la nation juive, portugaise et espagnole. Cette situation est tellement vraie qu'en 1790, date de l'émancipation des séfarades et des avignonnais, les ashkénazes attendront 1791, et de la fin de l'autonomie des communautés juives, les dirigeants décident de réunir en une seule organisation les syndics, la Ribera, le Talmud Torah, c'est-à-dire l'école. La Ribera devient alors l'organe de direction de la communauté jusqu'en 1808, date de la création du consistoire de Bordeaux, dont dépend alors Saint-Esprit. En 1809, la nomination d'un commissaire surveillant et d'une commission de 6 membres rend à la Ribera, présidée alors par Josué Léon, son autonomie. Les règlements de 1826 confirment cette autonomie. Mais en 1846, lorsque Bayonne-Saint-Esprit obtient la création d'un consistoire de plein exercice, détaché enfin de Bordeaux, la Ribera devient une administration consistoriale au même titre que celle du Talmud Torah et du Temple. Cette situation perdure jusqu'en 1905. Mais à l'approche du vote de la loi de séparation des églises et de l'État, qui va priver, en fin de compte, le consistoire de ses subventions, les dirigeants sont dans l'obligation de trouver des solutions pour sauver les œuvres de bienfaisance particulièrement menacées en raison de leur déficit chronique. En avril 1905, Camille Rodrigue et Lee, élu bayonnais au consistoire central, préconisent de créer une association selon les règles de la toute nouvelle loi de 1901 pour gérer les œuvres de bienfaisance. C'est la solution que va adopter le consistoire de Bayonne. Et en juillet 1905, Le consistoire approuve les statuts de l'association intitulée « Société de bienfaisance israélite et de la maison d'asile » et pousse ses coreligionnaires à y adhérer. Le 5 août 1905, en réunion publique, les statuts sont approuvés et la Rébéra est détachée du consistoire. Elle cesse donc d'être une administration consistoriale. En septembre 1906, la nouvelle association gérant la bienfaisance est reconnue d'utilité publique par décret présidentiel et le consistoire cède une partie de son patrimoine, la maison d'asile en particulier, à l'association qui en assurera la seule gestion. Alors, utilité publique pour pouvoir effectivement recevoir dons et legs. D'une certaine façon, la bienfaisance retrouve son autonomie. Cette société de bienfaisance est bien organisée et est animée par des hommes, des administrateurs. Qui sont-ils ? Avant d'en parler, j'aimerais mentionner le rôle de deux grands rabbins, et à savoir parce que leur rôle a été déterminant dans la définition de la politique sociale du consistoire. D'abord, le grand rabbin Samuel Marx, c'est un cousin du grand rabbin de Bordeaux, David Marx. Il accède officiellement au grand rabbinat à Saint-Esprit en 1843. Il est le premier grand rabbin moderne et le premier grand rabbin ashkénaze. Il est né en Allemagne, à Dürkheim, en 1817. Il est naturalisé français en 1841 et auparavant, avant d'arriver à Bayonne, enfin à Saint-Esprit, il dirigeait l'école israélite de Nancy et était même grand rabbin par intérim en raison du grand âge de celui du titulaire. C'est un rabbin moderne parce qu'il allie de solides études religieuses effectuées à la toute nouvelle école rabbinique de Metz et des études profanes approfondies. Il est licencié en philosophie et c'est un spécialiste de Spinoza. Il est membre de droit du consistoire et il est le premier grand rabbin à s'impliquer complètement dans la communauté auprès des dirigeants laïcs. Et il est à l'origine de la création d'institutions communautaires comme l'école des filles, la maison d'asile et sur le plan cultuel de la mise en place d'une initiation religieuse pour les filles. Il s'implique également en tant qu'aumônier des hôpitaux, il est membre de la commission de l'instruction publique et j'en passe. Pour les autres administrateurs de la Rébéra, vraiment, directement, enfin, ceux qui assurent la gestion de la Rébéra, il n'y a pas de mystère. D'abord, ils sont nommés par le consistoire et ils appartiennent tous à la frange la plus fortunée de la communauté, à la bourgeoisie juive locale. Leur nombre n'a peu varié durant le siècle, entre 3 et 4 ou 5 selon les périodes. Il s'agit d'hommes encore jeunes, dont la notoriété est déjà solide, ou plutôt celle de leur famille. Souvent, un membre de leur famille a appartenu ou appartient au consistoire. Le népotisme est la règle au XIXe siècle. Par ailleurs, il semble qu'une nomination à la Rébéra est une sorte d'apprentissage de pouvoir avant une élection au consistoire. Ce sont des hommes encore en activité, leur profession où dominent les activités commerciales et bancaires reflète parfaitement le profil socio-économique de la communauté juive. Ils ont un autre atout. Ils sont capables de faire appliquer les règles et de contrôler les récalcitrants. Enfin, leur adhésion aux idées défendues par le consistoire ne fait aucun doute, malgré la sécheresse des délibérations consistoriales qui ne donnent que peu d'indications sur leur ressort personnel. Durant toute la période, aucune démission n'a lieu en raison de différends avec le consistoire, ce qui n'est pas le cas dans l'administration du temple. Ainsi, au cours du temps, la Rébéra a connu des changements de statut, différents administrateurs, mais n'a jamais perdu sa fonction première d'assistance charitable et son caractère exclusivement confessionnel. Au contraire, son champ d'action s'est même élargi avec la création de la maison d'asile destinée aux vieillards malades ou aux infirmes et aux orphelins, et avec le soutien que la Rébéra va apporter à la Société protectrice de la jeunesse israélite. Les actions charitables couvrent de multiples activités et le règlement de 1826 est à cet égard très précis. Les autres règlements au cours du siècle reprendront à peu près les mêmes dispositions. La Ribera accorde des secours en viande, en volaille, en médicaments. Elle est chargée de fournir le pain azim pour Pâques, assure le paiement du médecin, des frais de funérailles pour les plus pauvres, est chargée de l'entretien du cimetière, est chargée de nommer les hermanos, les frères, et les hermanas, les sœurs. Ce sont des hommes et des femmes chargés d'effectuer la toilette funéraire rituelle avant l'enterrement. Les hommes sont aussi porteurs et fossoyeurs. Nos sources en ce qui concerne la Ribera sont très lacunaires et nous n'avons eu accès qu'à un seul registre de délibération qui s'ouvre en 1839 et se clôt en 1854. Les délibérations portent essentiellement justement sur la nomination des hermanos et hermanas, mais surtout sur leur suspension et leur privation de secours. Ce fut le cas pour Jacob Lopez et Moïse Paz en 1844. Leur comportement a été jugé outrageant. Ils ont refusé de se rendre comme porteurs dans la maison de Raïm Léon, qui est décédé. Les cas sont multiples et démontrent le changement de statut des hermanos. Tâche considérée comme un honneur sous l'Ancien Régime et où les plus riches commerçants de la communauté et leurs épouses participaient, au XIXe siècle, les hermanos et hermanas sont considérés comme du personnel subalterne qu'il faut contrôler, d'autant que progressivement, ils appartiennent aux classes défavorisées. Elle porte également sur l'attribution de places gratuites au cimetière en fonction de services rendus, mais surtout l'attribution de secours aux pauvres de la communauté. Ce domaine, le soutien aux pauvres, est le cœur de la politique consistoriale. Combien étaient les bénéficiaires des secours ? Il est compliqué de le savoir en raison toujours du caractère lacunaire de nos sources, d'estimer leur nombre, mais à partir de listes de secourus, on peut estimer qu'environ 15% de la population juive était concernée. Qui sont-ils ? En raison du déclin démographique et du vieillissement de la population, il s'agit en majorité de vieillards isolés, veufs, veuves, célibataires, dont la famille a quitté Bayonne ou Saint-Esprit, ou de femmes seules avec enfants, de femmes veuves, je précise. La solidarité familiale, la prise en charge par les plus jeunes de leurs parents plus âgés, se sont dissoutes au cours du XIXe siècle, en fait. Les secours accordés le sont de deux façons, soit en nature, soit en argent. Leur attribution dépend uniquement des administrateurs de la Ribera, toujours soutenus par le consistoire. En fait, les administrateurs ne prennent en charge que les pauvres dignes d'intérêt, et je cite. C'est-à-dire les personnes qui, par leur comportement, leur fidélité au consistoire et à ses dirigeants, leur moralité méritent d'être soutenues. C'est pareil. Avant toute attribution, les postulants sont examinés par un médecin pour juger du volume de secours accordé selon leur état sanitaire. La générosité a ses limites. Durant tout le XIXe siècle, à l'exception du docteur Petit, les médecins appartiennent tous à la communauté. Charles Silva, Camille Delvaille, puis Nordkur Rosenthal. Une fois le constat de dénuement effectué, le bilan de santé pratiqué, les secours en nature, viande et pain en particulier, sont distribués tous les vendredis pour Shabbat. C'est déjà le cas sous l'Ancien Régime. Mais les quantités sont revisitées régulièrement en fonction de l'amélioration sanitaire ou non de la personne secourue. C'est-à-dire quelqu'un qui se retrouvait avec 500 grammes de pain ne peut se retrouver avec 300 grammes la semaine d'après parce qu'on trouve qu'il va vraiment mieux. Pour la viande, les bénéficiaires pouvaient aller se servir chez le boucher de leur choix qui avait passé un traité avec la Ribera. Je ne m'étends pas là-dessus. Voilà. Les secours en argent sont exceptionnels et ne sont accordés que dans des circonstances particulières. Ils sont délivrés pour payer une nourrice lorsque la mère ne peut pas allaiter son enfant, pour payer des médicaments, pour payer la pension de malade, d'infirme ou de vieillard placé chez des particuliers. Ceci même après l'ouverture de la maison d'asile, et même pour payer des bains de boue à Dax. Mais il existe des contreparties au secours de la Ribera. Elles s'inscrivent complètement dans la volonté de contrôle social et religieux du consistoire. D'abord, comme ce fut le cas sous l'Ancien Régime, les secours sont accordés en priorité aux pauvres originaires de Bayonne, les étrangers étant certes accueillis, mais le moins de temps possible. Cet aspect, ce refus de l'étranger juif, pourtant, s'accentue au cours du XIXe siècle en raison aussi des difficultés financières. Ce n'est que grâce à la ténacité du grand rabbin Marx et à la force de persuasion du grand rabbin Aristide Astruc, ancien grand rabbin de Belgique et un des fondateurs de l'Alliance israélite universelle, que le consistoire et la Hérébéra acceptèrent d'accueillir les étrangers et en particulier des orphelins. De même, les parents recevant des secours sont tenus d'envoyer leurs enfants régulièrement à l'école israélite sous peine de se voir retirer les aides. D'autre part, les pauvres secourus ne doivent pas enfreindre les lois religieuses. La transgression du Shabbat par la veuve Soares lui valut la suppression de son secours en viande pendant plusieurs semaines. Enfin, les individus porteurs de maladies honteuses n'ont droit à aucun secours. La même rigueur est appliquée aux femmes dont la conduite est jugée scandaleuse. Comme nous le disions, seuls sont aidés les pauvres intéressants, se soumettant au contrôle. Les autres sont rejetés ou sanctionnés. Mais tout cela coûte cher et la Rébéra peut compter sur des ressources régulières. Les cotisations individuelles ou les souscriptions, elles ont tendance à baisser au 19e siècle et le nombre de retardataires dans les paiements augmente. Les offrandes au temple, c'est-à-dire les quêtes organisées tout au long du calendrier liturgique qui conservent un bon niveau durant toute la période, les mauvaises langues disaient que beaucoup de juifs bayonnais devenaient des juifs de Rosh Hashanah et Kippour. Le montant des places au cimetière, les droits de sépulture, dont les tarifs sont soumis à une codification précise. Le montant d'une taxe sur les dots, cette pratique était encore en usage au milieu du XIXe siècle et consiste pour le président de la Rébéra à se rendre au domicile des nouveaux époux, à fleurir la mariée et à demander au mari de verser 1/1000 de la dot reçue. Au XVIIIe siècle, c'était 1/100. Et une allocation de la ville de Bayonne qui s'élève, grosso modo pour l'ensemble du XIXe siècle, à 1200 francs. Et puis des dividendes, des rentes perpétuelles, mais je vais passer. À côté de ces ressources régulières, la Rébéra peut également compter sur les dons et legs. L'habitude de donner aux institutions charitables sans disparaître complètement tend à diminuer au XIXe siècle. Seule la bourgeoisie ou la haute bourgeoisie juive, bayonnaise ou non, adhère encore à cette pratique. Ce sont des membres du consistoire, Virgile Léon, Auguste Furtado, David Salzedo, Jules Gomes, pour qui donner ou léguer aux institutions charitables est une façon de démontrer le bien fondé de leur politique. Des personnalités influentes et connues pour leurs bonnes œuvres, Rose Fould, Cécile Furtado-Hein, la baronne Hirsch, mais aussi, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des catholiques. Trois de ces legs sont acceptés par le consistoire. Les legs, alors qu'ils émanent des mêmes catégories de personnes, n'ont pas la même fonction. En effet, ils couvrent souvent l'ensemble des institutions consistoriales et pas seulement la Rébéra, et sont l'expression du sentiment religieux du fondateur ou de la fondatrice du leg. Mais tout cela ne suffit pas à combler le déficit chronique des finances de la Rébéra. En 1897, la situation est même catastrophique. C'est la baronne Hirsch qui éponge les déficits de la Rébéra et de la maison d'asile. Cependant, malgré ces difficultés, les administrateurs, soutenus par le consistoire, n'ont pas jugé bon de réduire les dépenses. À leurs yeux, du soutien aux éléments les plus fragiles dépendait la cohésion de la communauté et son image à l'extérieur. La Rébéra n'est pas le seul pôle où s'exprime la philanthropie. Il existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, des organisations satellites intégrées ou indépendantes dont l'idéologie est en tout point semblable à celle défendue par le consistoire. Nous commencerons par la maison d'asile. Dès 1848, dans un rapport moral sur les institutions charitables demandé par le préfet des Landes, je rappelle que Saint-Esprit à cette époque était une commune landaise, le consistoire, après avoir énuméré les tâches dévolues à la Rébéra, insiste pour dire que la bienfaisance serait avantageusement complétée par la création d'une maison de refuge où l'on accueille les vieillards. Cette requête consistoriale se justifiait car en raison de prescriptions religieuses et par crainte du prosélytisme, les malades et les vieillards ne souhaitaient pas se rendre dans les hospices tenus par des catholiques. Or, on imagine aisément qu'il n'est pas toujours facile de faire admettre dans les familles de Saint-Esprit ou de Bayonne, mais surtout Saint-Esprit, des malades ou des vieillards n'ayant aucun lien avec la famille d'accueil. En plus, la maladie et la sénilité effraient. Au départ, le projet du consistoire concernait exclusivement les vieillards et les malades, mais le grand rabbin Marx insista pour qu'on y intègre les orphelins. Pour lui, les risques de conversion étaient réels. Les enfants étaient la plupart du temps placés dans des familles non juives à la campagne. La création d'une maison d'asile s'impose donc dans l'esprit du consistoire, car une institution de ce type le mettrait en quelque sorte sur un pied d'égalité sur le plan philanthropique avec les catholiques qui contrôlent la majorité des bureaux de bienfaisance. Mais le consistoire n'est pas en mesure de financer seul le projet. Il lui faut faire appel aux mécénats et les mécènes seront Abraham Rodrigueli et David Salzedo. Les raisons qui les poussèrent à favoriser la réalisation de ce projet sont obscures et on peut se demander si leur élan de bienfaiteur n'est pas une manière de consacrer aux yeux de leurs collégionnaires leur réussite sociale. Donc en 1859, Rodrigueli et Salzedo fournissent les moyens matériels à la réalisation de la maison d'asile. Salzedo cède une maison de 3 étages lui appartenant 18 rue Maubec, en face du temple. Et Rodrigueli finance à hauteur de 10 000 francs la remise en état de l'immeuble. Aux côtés des administrateurs de la Ribera, fut nommé un comité de dames pour surveiller l'établissement. Et en 1868, 6 des règlements sont adoptés et définit l'organisation interne de la maison d'asile, les règles d'admission, les motifs d'exclusion. Cependant, l'autonomie de la maison d'asile est très relative. Très rapidement, le consistoire va retirer les pouvoirs d'administration à la Ribera et reprendre à son compte la maison d'asile. De ce point de vue, il est intéressant de noter que plusieurs cas d'admission d'exclusion ont été traités directement par le consistoire sans demander leur avis aux membres de la Ribera. Dès la création de la maison d'asile, le nombre de places était limité et durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, il va augmenter grâce à la participation de l'élite juive. Il n'y a jamais eu au-delà de 20 pensionnaires dans la maison d'asile. Soulignons également que le nombre de pensionnaires, justement, c'est ce que j'ai dit, mais ce faible effectif est la preuve que la maison d'asile n'est ni une maison de retraite, ni un orphelinat, mais l'ultime recours face à la sénilité, la maladie incurable, la détresse des jeunes enfants. C'est pourquoi la Ribera ne cessa jamais de verser des secours pour le maintien à domicile et réclama à certains pensionnaires de payer leur séjour. D'autres sont accueillis à titre gratuit, ce sont surtout les orphelins. Les enfants en grande détresse sociale et morale et physique, dont les parents ne sont plus jugés aptes à garder. L'exemple d'Arthur Lopez Silva, qui est battu par son père, est contraint de mendier dans les rues. Ou les enfants menacés de prosélytisme. Mais le plus souvent, ce sont des membres de la famille qui s'acquittent de la pension, voire le pensionnaire lui-même. Ces enfants sont pris en charge par la Ribera, qui les scolarise à l'école israélite, ou à la fin du XIXe siècle à l'école laïque, puis par le biais de la Société protectrice de la jeunesse israélite, les place en apprentissage. La maison d'asile est un élément fondamental de la politique sociale du consistoire et de la défense de l'identité juive. Elle est un symbole du judaïsme moderne. Son existence a permis à l'élite communautaire de satisfaire à l'un des devoirs religieux, mais dans un cadre rénové, celui de la philanthropie. En outre, intégrée au paysage urbain de Saint-Esprit, elle contribue à renforcer un espace communautaire visible de tous. Je passerai maintenant à la Société protectrice de la jeunesse israélite et des arts et métiers. Je parlerai de la Société protectrice de la jeunesse parce que c'est un peu long à dire. Est également un prolongement de la politique sociale du consistoire, même si apparemment cette institution est autonome. Elle sert de relais pour encadrer la jeunesse et l'expression même du concept de régénération et les thèmes qui s'y rattachent, honnêteté, travail, instruction et respect de la religion. C'est sans doute également une façon de soulager la Ribera. La société est fondée en 1864. Elle est née en fin de compte de la fusion de la Société des arts et métiers créée en 1827 et de la Société de bienfaisance de la jeunesse israélite créée en 1850 par Gersan Léon et Camille Delvaille pour secourir l'indigence. Gersan Léon et Camille Delvaille étaient tout jeunes, ils avaient 15 ans à cette époque. Nous ne savons que peu de choses des deux organisations qui précédèrent la société. Mais ses objectifs sont clairs, faire le bien, Et arriver à la moralisation et au bien-être de la classe pauvre israélite, nous disent les fondateurs de la société de bienfaisance et de la jeunesse israélite. Je ne peux m'empêcher de vous lire un extrait d'un article paru dans l'Univers israélite en 1877. La société a pour but d'entretenir les enfants pauvres israélites des deux sexes, des idées d'ordre, de religion et de travail, de leur fournir les moyens d'apprendre un état ou une profession libérale en les secourant pendant la durée de leur apprentissage ou de leurs études, de faciliter le placement des ouvriers qu'elle a formés, de favoriser l'établissement de ceux qui leur permettraient de présenter toutes les garanties morales et de bonne conduite, d'accorder des secours à ceux des ouvriers qui se mettent en voyage pour le perfectionnement de leur état, d'inciter les apprentis à se rendre au temple tous les samedis et jours de fête et à assister régulièrement aux cours d'instruction institué pour eux. Que dire de plus ? La société protectrice est fort bien structurée et son recrutement s'effectue par cooptation. On y retrouve l'élite de la communauté, des représentants des classes moyennes, mais aussi à l'extrême fin du XIXe siècle, des anciens apprentis qui ont réussi. C'est le seul endroit où se retrouvent des hommes nouveaux, peu ou pas liés aux familles dirigeantes. Elle est un vivier de potentiels dirigeants et en particulier pour la Rebera. Elle exerce un contrôle actif sur les garçons ayant atteint leur majorité religieuse, soit l'âge de 13 ans, et terminé leur cursus primaire à l'école israélite. Les filles sont acceptées à partir de 1868, mais contrôlées par un comité des dames. La société protectrice, après avoir admis les apprentis présentés par leurs parents, se charge de leur distribuer un trousseau journalier et un uniforme pour les grandes fêtes, avec chemise blanche, souliers et képi, à restituer dès le lendemain. De leur faire bénéficier de secours, de pain, de leur faire suivre des cours qui ont lieu le samedi matin, les travaux d'oral, et le dimanche, les travaux écrits, et de leur faire suivre les offices à des places numérotées et à surveiller de près par une personne désignée par la société. Les manquements à l'une ou l'autre des activités sont sanctionnés immédiatement et la privation de pain et d'habillement est la punition la plus courante et la pression sur les parents pour que leur fils rentre dans le moule est forte. Ce ne sont souvent que des comportements d'adolescents un peu turbulents. Certains sont allés faire une promenade en barque à Boukho le jour de Shabbat et sont rentrés un peu tard, mettant le quartier en émoi. D'autres jouaient de l'argent à Pourim. Un autre fumait dans la cour de la synagogue après l'office. D'autres, en revanche, vendent des allumettes au lieu d'aller à l'école ou mendient dans les rues, qui mendient dans les rues, sont sévèrement punis. En fait, la société protectrice de la jeunesse israélite agit envers les jeunes comme la Rebera agit envers les adultes. C'est pourquoi elle a représenté un utile soutien à la politique sociale du consistoire. Pour conclure, la politique sociale du consistoire est une tentative, en fin de compte, pour concilier deux courants. L'un fondé sur la tradition d'assistance dont j'ai parlé, qui est représentée par la Rebera, et l'autre sur cette idée développée par la bourgeoisie du XIXe siècle, la philanthropie. Le rôle du consistoire fut en effet de concilier ces deux tendances en reprenant une très grande partie des attributions anciennes de la Rebera du XVIIIe, en reprenant entre autres son mode de fonctionnement, mais en affirmant sa volonté de contrôle social et religieux beaucoup plus nettement qu'auparavant. Alors que la communauté décline, que de nombreux coreligionnaires s'éloignent de certaines pratiques religieuses, il est compliqué pour un ouvrier qui travaille le samedi de faire Shabbat. Et en soutenant la création d'institutions nouvelles. C'est sans doute à travers la Rebera, la société de bienfaisance, que celui le mieux, dans un cadre rénové et hiérarchisé, les difficultés pour allier tradition et modernité sans rompre la cohésion communautaire.
Le consistoire israélite de Bayonne et la bienfaisance au XIXe siècle, vous venez de suivre l'intervention d'Anne Oukemanou, docteur en histoire de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglet. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette. Thank you.